Voilà un enseignement assez long, comme il y en a souvent dans l'évangile de Jean, de Jésus, qui n'est pas très facile à suivre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y est question du témoignage. Et Jésus, dans un langage qui est un langage clivant, hein, un langage polémique, va reprocher à ses auditeurs de se fier au témoignage des hommes plutôt qu'au témoignage de Dieu. Bon, il y avait ceux qui vouaient à Jean-Baptiste, vous savez, Jean le baptiseur, qui vouaient à Jean-Baptiste une admiration infinie. Et oui, parce que Jean, voilà enfin un prophète sans concession, un vrai, un radical. Non seulement il prêche une parole directe, sans concession, mais son mode de vie est spectaculaire. Il habite dans le désert, il se nourrit de trois fois rien, il est vêtu d'une peau de chamois, une peau de chameau plutôt. Enfin, un homme qui est totalement consacré. Enfin, un vrai, qui fait aucune concession avec la vérité. Ça, ça plaît aux gens aujourd'hui, les radicaux, en politique, en religion. On rencontre des chrétiens comme ça qui projettent leur idéal de pauvreté, leur idéal de sainteté, de radicalité. Ils projettent ça sur leur pasteur, par exemple. Alors, ils tombent de très haut quand ils s'aperçoivent que leur pasteur n'est pas plus pauvre, plus saint et plus radical que la moyenne. Je ne sais pas où elle est, d'ailleurs. Et à Jérusalem, en ce début de premier siècle, le moral du peuple est à zéro. C'est l'occupation romaine. On attend un libérateur qui ne vient pas. Il n'y a plus de prophète. L'attente du Messie est extrêmement forte. Et Jean-Baptiste incarne ce désir de changement. Alors on se déplace au meeting du prophète radical, au Jourdain. Mais est-ce qu'on l'écoute? Ça, c'est moins sûr. Parce que Jean-Baptiste ne parle que d'une chose. Il ne parle que de Jésus. Si vous voulez embrasser la radicalité de Jean-Baptiste, si vous voulez changer de vie, si vous voulez arrêter d'aller... En fait, ce qu'il faut faire, si vous voulez tout ça, il faut arrêter d'aller voir Jean-Baptiste. Vous voulez vous convertir pour devenir pur. N'allez plus voir Jean-Baptiste. Allez trouver celui dont il ne fait que parler. Jésus. Bon, ce texte nous montre que c'est pas tout d'aller voir Jésus. Les religieux sont venus voir Jésus. Mais ils sont venus dans l'intention de le comparer, à Moïse. Parce que, pour eux, Moïse, c'est la valeur sûre. Le prophète par excellence. Le libérateur. Le conducteur spirituel. Et tu l'as dit, Léa, le législateur. Moïse, c'est la référence absolue en matière de foi et de conduite. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, c'est lui. Mais si le fan club de Moïse écoute vraiment les paroles de Moïse, ils vont comprendre que Dieu est en train d'accomplir sous leurs yeux tout ce qu'il avait promis à Moïse. Je cite le livre du Deutéronome, où après avoir proclamé au peuple toute la loi, Moïse dit ceci, pardon, voilà. L'Éternel ton Dieu, donc c'est Moïse qui parle au peuple, hein, l'Éternel, ton Dieu, t'enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de ton peuple, vous l'écouterez. Jésus invite ses interlocuteurs à écouter Moïse. Si vous suivez vraiment Moïse, vous trouverez quelqu'un d'autre que Moïse. Être fidèle à Moïse, c'est finalement, c'est laisser tomber Moïse. Pour aller où ? Vers qui ? Jésus. Et on retrouve aujourd'hui dans des genres différents les mêmes comportements. On nous demande quelle est notre religion. Et nous, on répond qu'on va à l'église du pasteur machin. Vous savez, la super méga church, j'en nomme aucune. Hein. Ah oui, c'est ça notre religion ? Une admiration pour une église ? Pour une façon de louer Dieu ? Pour un prédicateur ? Ça, ce sont des formes d'idolâtrie. En réalité, si on écoute vraiment la prédication d'un tel ou d'un tel de pasteur machin, au-delà des aspects plastiques, communicationnels, et j'ai les miens, et on a tous sa façon, au-delà de l'emballage, si on écoute bien, si on écoute bien la prédication de n'importe quel prédicateur, elle va nous dire un seul nom. Oui, oui, Jésus, le Christ. Vous savez, il y a deux dimanches, on a passé ce qu'on appelle le dimanche de la Réformation. C'est une date traditionnelle qui est fêtée dans le protestantisme. On commémore le 31 octobre la réforme protestante qui a commencé en Allemagne ce jour-là. Un 31 octobre, Luther, le réformateur allemand, c'est la légende, un peu la tradition qui raconte ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En tout cas, il a affiché 95 thèses, affirmations, il a placardé ça sur la porte de son église où il était prêtre, à Wittenberg. Un gigantesque coup de gueule, en fait, hein, 95 paroles très dures envers l'Église, contre les dérives morales et les dérives doctrinales de l'Église. En gros, ces thèses disaient « Pourquoi êtes-vous soumis au pape alors que ce n'est pas le pape qui vous sauve ? Pourquoi achetez-vous des certificats tamponnés par l'Église qui vous promettent l'indulgence de Dieu quand vous arriverez là-haut ? Alors que Dieu seul sauve, et qu'en plus, il sauve gratuitement. » Voilà, et Luther était dans tous ses états. Et on nous demande encore, au fait, quelle est votre religion aujourd'hui ? Et puis on affiche, ça s'appelle Croix Huguenote. Ah, moi, je suis protestant. Mais on s'en fiche. Cette croix huguenote, cette histoire, cette Bible ne disent qu'une chose. Jésus. Elle dit que Jésus le Christ est le Seigneur de ma vie, de ta vie. Alors en bon protestant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de la Bible, bien sûr. On va parler de notre rapport aux Écritures. Et attention, Jésus nous met directement en garde ici. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On doit être, nous, protestants, très attentifs à cette parole. La Bible ne doit jamais devenir notre pape de papier, comme on nous a accusé, allez, au XVIe siècle. Quelle est notre rapport aux Écritures? Sommes-nous attachés à la lettre au lieu d'écouter la parole, le message, au lieu d'écouter l'appel des Écritures? Il existe donc une manière idolâtre de lire la Bible. Jean-Baptiste, Moïse, la Bible, l'Église ne témoignent que d'une chose. Jésus, le Christ, sauveur du monde. Et tout ce qui vient faire écran à cette proclamation doit être quitté, abandonné. Mon identité profonde, ce n'est pas d'être protestant, évangélique, libre, passage. Pas du tout. C'est d'être attaché à Jésus le Christ. Nous avons besoin des témoins, certes, mais nous ne devons jamais les confondre avec la vérité. Et Jésus pose la question, il dit d'ailleurs, les témoins sont-ils vraiment indispensables ? Je m'arrête ici parce que dans notre culture évangélique, il y a une expression qu'on aime beaucoup. Rendre témoignage. Ça veut dire, enfin je le comprends comme ça, raconter sa conversion. Et Jésus dit en substance, j'ai pas besoin de témoins, au verset 36. J'ai pas besoin de gens qui se donnent de l'importance en disant, l'air de s'y connaître, ah oui Jésus, je le connais, il est très bien, je vous le recommande. Ou d'autres encore qui se racontent eux-mêmes en pensant rendre témoignage à Jésus. Ce n'est pas notre témoignage qui donne de la valeur à Jésus. Les disciples eux-mêmes, qui sont pourtant les témoins par excellence, hein, n'ont pas réussi à rendre témoignage au moment où il le fallait, quand ça devenait chaud. L'Évangile nous raconte comment ils se sont tous défilés quand les choses sont devenues compliquées pour Jésus. « Je ne le connais pas », dira le premier d'entre eux. « Je ne le connais pas ». Parler d'un témoignage. Et les autres étaient-ils, où étaient-ils, on ne sait pas. Finalement, la seule personne à pouvoir témoigner de Dieu, ben c'est Dieu. À pouvoir témoigner de Jésus, c'est Dieu. J'ai un témoignage. Plus grand que celui de Jean, dit Jésus ici. Le Père a lui-même rendu témoignage de moi. Et ça, c'est intéressant que nous le gardions, hein, parce qu'il y a des gens qui ont rencontré le Christ sans aucun témoin. J'en ai même rencontré un ce matin, devant la porte de cette église. J'étais bouleversé. Mais je vais vous parler d'un autre. D'ailleurs, il y a l'apôtre Paul, hein, pour citer un bien connu sur son chemin de Damas, ennemi de l'Église. Il va casser du chrétien, pam. Jésus lui dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. Saul, Saul. Quand nous étions au Liban, nous sommes devenus très proches d'une famille chiite de Beyrouth. Leur nom, oui, parce qu'au Liban, les musulmans et les chrétiens peuvent devenir amis, hein. Ça, une petite note en bas de page. Nous étions donc là, à Beyrouth, et le nom de cette famille est célèbre au Liban parce qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant dans la vie de cette famille. Afif Ousseran, le grand-oncle de nos amis, dans les années 50, il a 25 ans, va prier à la mosquée comme tous les jours. Il se passe quelque chose au cours de sa prière rituelle. Je cite Afif Ousseran. « Alors que je suis en prière à la mosquée, j'ai l'impression d'être en présence d'un homme dont je vois les pieds. J'ai l'intuition d'une force supérieure. Après cette expérience, je me mets à la lecture de l'Évangile, Et je lis alors ce commandement du Christ. Aimez vos ennemis. Et je me suis converti. Afif continuera à aller à la mosquée un certain temps et puis il deviendra prêtre catholique et cherchera à mettre cette parole reçue, cette parole de conversion, aimez vos ennemis, il essaiera de la mettre en pratique, il sera un lien entre ces religions dont nous parlons, chrétiens et musulmans. Dans le livre des Proverbes, il y a cette parole que je trouve étrange. Le témoin véridique délivre les âmes. C'est bien ce qui s'est passé à la mosquée de Saïda, de Sidon, ce jour-là. Une rencontre entre un homme et le témoin véridique, qui est Christ. Jésus rappelle ici ce que la Torah affirme. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui a vu le Fils, ou seulement ses pieds, a vu le Père. Ça, c'est dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 14. Alors, la question reste de savoir comment on fait pour voir Jésus. C'est pas simple. On n'a pas tous fait l'expérience de Saul, de Tarse, d'Afif au Séran. Nous, on a seulement la Bible. Et souvent, au lieu de chercher et d'accueillir la présence du Christ dans les Écritures, eh bien, souvent, on cherche des paroles qui nous font du bien ou des paroles qui nous arrangent, c'est-à-dire qui viennent appuyer ce qu'on pense déjà de Dieu ou de la situation, etc. On fait de la Bible, finalement, un livre de recettes pour le bien-être. Contre l'angoisse, j'ai une dizaine de petits versets à vous citer. Hein. Contre le doute, je peux vous en citer encore une dizaine de plus, etc., etc. Donc la Bible devient un produit de consommation, comme d'autres font de la méditation, d'autres font du sport, certains lisent la Bible. Voilà, on se sent mieux. Et c'est toujours un peu les mêmes passages, hein. Ce qui me procure ce que je cherche. En fait, on ne cherche pas Dieu. On se construit son petit univers spirituel avec ses témoins préférés. Mais on ne cherche pas Dieu. Le problème des témoins, il faut en avoir conscience, c'est qu'ils n'ont accès qu'à une face de la vérité et pas à toute la vérité. Regardez, j'ai ici un schéma qui est très facile à bien et qui montre ça. Vous avez le témoin numéro 1 qui est devant un édifice. Hein ? Et devant cet édifice, il dit « Je suis devant un édifice rond. » Puis vous avez le numéro 2, lui, il est de l'autre côté. Et il jurerait que l'édifice devant lequel il se trouve est carré. Et puis, vous avez celui qui est numéro 3, etc. Chacun a son point de vue hein, sur l'édifice. Je n'ai pas le même. Et est-ce qu'il se trompe ? Personne ne se trompe. Il n'y a que la vue d'en haut. Oui, il n'y a que la vue d'en haut. Hein. Le témoignage du Père, dont parle Jésus, qui donne accès à la forme d'ensemble. Il a la vue d'en haut et puis il a la vue d'en bas par Jésus, hein, le Père. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. En plus, il fait le tour de là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 évangiles, qu'il y a 66 livres dans la Bible. Parce que la vérité de Dieu, elle est dans cette diversité des éclairages, des témoignages, des expériences de Dieu. Elle est dans cette affirmation, oui, on l'entend dans tous nos cantiques, Dieu est tout-puissant. Mais elle n'est pas que là. Elle est aussi dans cette autre affirmation qui dit que si vous ne devenez comme ces tout petits, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. On n'est plus dans la toute-puissance là, hein, les tout petits. La vérité est dans l'acte de création du monde par le Dieu tout-puissant, oui. Elle est aussi dans l'abandon de la puissance à la croix. On peut décider de devenir disciple numéro un et dire que l'Église fidèle est toute ronde. Ou du disciple numéro 2, j'en connais pas mal, qui dit que l'Église doit être carrée. Sinon, ce n'est pas l'Église. Mais où est Jésus ? Il est à la fois dans cette vue partielle et néanmoins vraie de chaque témoin, mais il est au-delà des témoignages. On ne peut pas prétendre saisir la totalité de la vérité de Dieu. Par contre, il arrive que Dieu nous saisisse, comme Afif au Séran, comme avant lui Jean-Baptiste, Moïse. Et il arrive alors que notre vie soit transformée, Josué, et que la vérité se fasse un peu plus proche, un peu plus lumineuse en nous et autour de nous. On ne peut pas se passer des témoins. Nous devons leur faire confiance, oui. Mais nous ne pouvons réduire la vérité de Dieu à leur seul témoignage. Car alors notre foi devient idolâtre. Et vous savez, toute foi est un peu teintée d'idolâtrie. On ne va pas dire nous non. Hein, nous. La vérité, c'est Jésus, le Christ, dans toute sa lumière, dans tout son mystère. Et notre lecture de la Bible doit faire une prière, comme on a fait ce matin, avant de méditer l'Écriture, une prière qui demande que, finalement, nous soyons transformés par cette lecture. On ne peut plus dire « Ah, moi, j'aime beaucoup Jésus, Paul, un peu moins. J'aime beaucoup Pierre. Mais Jacques, un petit peu moins. Ésaïe, Ézéchiel, je comprends moins. » Non, chaque témoin biblique reflète une facette de la vérité divine, de la pleine vérité. On ne peut pas décider de laisser s'éteindre dans nos vies tel ou tel reflet de la vérité. Il est vrai aussi qu'il y a différents moments dans la vie des croyants. Quand j'étais jeune homme, quand j'ai découvert la foi, j'étais subjugué par la toute-puissance de Dieu. C'était ça qui captait mon attention, les paroles de la Bible qui parlent de ça. Mais en avançant dans la vie chrétienne, j'ai peu à peu ouvert mon cœur à la théologie du dépouillement, de la faiblesse, la théologie de la croix. Elle est devenue beaucoup plus présente au centre de ma foi. Il y a un temps pour découvrir Dieu à Jérusalem, dans le feu de la Pentecôte, et il y a d'autres temps pour découvrir Dieu, comme tenez Ismaël et Agar au désert, dans l'épreuve, dans la solitude, dans l'abandon. Mais toujours, toujours, c'est Christ qui vient à nous et qui se révèle. C'est lui, le témoin véridique des Écritures. C'est lui que nous cherchons, c'est de lui que nous témoignons, lui, lui seul, qui ne nous accuse pas devant le Père. Je ne vous accuse pas devant le Père. Lui qui nous justifie devant le Père et qui nous aime. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous un bon témoignage de votre foi dans le monde, auprès de ceux que vous aimez. Amen.